Je vais procéder à la lecture du psaume 8. Au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vais maintenant vous lire une prière écrite par Elie Wiesel. Ta parole est plus grande que nous. La parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons. C'est par elle que nous nous abaissons. Elle est refuge pour l'exilé et exil pour le suffisant. Comment ferais-tu sans elle pour prier? Comment ferais-tu pour pleurer, pour espérer, pour te justifier? Ne te moque pas de la parole, ami. Quand tu es en danger, elle t'enveloppe. Quand tu rêves, elle te protège des cauchemars. Laisse-la te pénétrer et t'abreuver. Donne-toi à la parole et tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, l'élan qui porte vers Dieu.
Ce psaume commence en disant « Seigneur, que ton nom est magnifique ». Le livre des psaumes est un livre qui existe depuis plus de 2000 ans, 2500, peut-être 3000 pour quelques-uns. Et aujourd'hui encore, dans chaque synagogue juive, dans chaque église chrétienne, dimanche après dimanche, on en lit un ou deux, on en chante les paroles de l'un ou de l'autre. Des milliers de communautés réparties dans le monde disent, récitent, reprennent le tout ou un petit bout des psaumes. C'est donc probablement le livre de prière le plus lu, le plus médité et le plus chanté. Un peu plus près de nous, à la Réforme, au XVIe siècle, enfin ça fait quand même déjà plus de 400 ans, les réformateurs se sont pas trompés, puisque ces 150 psaumes, ils les ont tous mis en chanson et en musique, pour qu'on réapprenne à pas les réciter simplement comme ils étaient dans la tradition. On a retravaillé le texte, on les a remis en français du XVIe. Aujourd'hui, quand on chante dans une église, très souvent, une phrase, deux phrases reprennent le sens de l'un ou l'autre de ces psaumes, parfois dans le vocabulaire d'il y a longtemps et parfois dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Ce dimanche, nous allons donc entrer un petit peu dans le psaume numéro 8. Marie-Claire, tout à l'heure, en commençant, vous disait c'est un psaume avec un chef de chœur. Donc ça suppose une communauté. qu'il y a un instrument de musique, une guitite, alors on ne connaît plus. On ne sait pas très bien ce que c'était, sinon que c'était un instrument à cordes. Et qu'un deuxième mot encore pour dire, c'est un poème mis en musique. Alors voilà le titre, si vous voulez, la donne. Vous pouvez entendre ce texte comme un chef de chœur, quelqu'un qui organise, qui dirige, qui fait chanter, que c'est un poème où il y a une mélodie, il y a du rythme, il y a un contenu, c'est organisé, c'est pas au hasard, et qu'il y a des instruments de musique. C'est ce que nous faisons ce matin. Ce matin aussi, il y a un groupe qui dirige et qui nous fait chanter. Nous sommes ensemble, pas tout seuls, et les chants que nous chantons ont été travaillés, préparés et construits. Voilà comment ce psaume 8 nous est donné. Donc n'allez pas trop vite au verset 2 avec le contenu « Seigneur, que ton nom est magnifique ». Oui, c'est très important, puis je vais venir maintenant. Mais de temps en temps, c'est important de lire aussi le tout début du psaume pour savoir en fait dans quelle occasion il a été pensé. Et les trois quarts, si vous regardez un peu en détail, les trois quarts des 150 psaumes sont avec un chef de chœur ou avec un instrument de musique ou avec un chœur ou c'est composé comme un chant. Et parfois tout ensemble à la fois. Parfois c'est carrément un orchestre et une symphonie. Et parfois c'est un instrument tout seul. Le nôtre, c'est le chœur, l'instrument et la musique. Alors pour entrer dans l'esprit de la suite de ce psaume, je vous invite à vous offrir bientôt une fin de soirée particulière. Une fin de soirée qui vous coûtera rien et qui vous procurera un plaisir énorme. Vous pouvez même prendre les enfants, même les tout-petits. Si vous êtes âgé, eh bien, on vous installera peut-être un lit de camp. Et en fin de soirée, vous choisissez une nuit très claire. Vous vous rendez en pleine campagne, là où il n'y a pas de lumière artificielle. Vous cherchez un coin comme ça, ou à la montagne. Et vous vous couchez tranquillement, dans l'herbe. Et vous regardez le ciel. Qu'est-ce que le spectacle est magnifique ! C'est inouï de penser qu'il y a des étoiles depuis des centaines, des milliers, des millions, peut-être des milliards d'années, qu'on les voit, certaines très éloignées, d'autres plus près, et notre imagination n'arrive pas au bout du compte. Ce psaume dit, quand je vois le ciel, quand je vois moi, là, je me sens tout petit, que ton nom est magnifique, toi créateur. Qu'est-ce que l'humain là-dedans? Qu'est-ce qu'un humain pour que toi Dieu tu penses à nous? Alors là on ferme les yeux et on regarde plus seulement le ciel et les étoiles et ces lumières qui viennent de très loin. Et on regarde en nous, l'humain. Et le psaume dit, « Seigneur, tu as donné à l'humain des capacités époustouflantes, pour le meilleur et le pire, des capacités prodigieuses. » Mais c'est vrai, on peut aussi imaginer que ces capacités permettent de tout détruire, mais aussi de tout créer. L'être humain, nous dit ce psaume, règne sur la nature et sur les autres êtres vivants. Ce psaume dit, « Seigneur, tu as fait l'humain roi de la terre, à peine moins qu'un dieu. Tu as tout mis sous ses pieds. » Alors, de retour sur place, si vous ne vous êtes pas endormi, eh bien, relisez ce psaume, petit bout par petit bout, et vous verrez, il commence comme un poème musical, il y a du rythme, il y a des voix, et il dit, ton nom est magnifique, quand je regarde le ciel, et un peu plus loin, qu'est-ce que l'humain tout petit là-dedans pour que toi tu t'en occupes, Dieu ? Alors, ça nous amène à réfléchir à la place de Dieu et à la place de l'humain dans le monde. C'est vrai, le monde est grand. La Terre, à notre mesure, même avec la technologie d'aujourd'hui, ça prend quand même un certain temps pour en faire le tour. Et nous savons que la Terre est toute petite dans l'univers. Qu'est-ce que nous sommes là-dedans ? Eh bien, ce psaume exprime qu'on ne peut pas maîtriser Dieu. Qu'il se montre de manière diverse. Ces psaumes disent quelque chose que Dieu a fait ou fera. Ils disent des actes d'amour que Dieu accomplit. Et surtout, ce psaume dit quelque chose de l'humain. Il dit, comme un acte d'amour, que Dieu a confié aux humains tout ce qui s'y trouve pour être de bons jardiniers, de bons gestionnaires, de bons habitants. C'est donc à la fois un Dieu qui nous échappe et à la fois un Dieu qui nous confie des choses extraordinaires. Et pour terminer cette petite réflexion sur le psaume 8, je trouve que dans ce psaume, il y a trois renversements d'idées. Le premier renversement est exprimé en une phrase. Mieux que les cieux, c'est la terre qui chante la gloire de Dieu. C'est bizarre parce que ce psaume commence par dire, quand je regarde, je vous invite à vous coucher, puis à regarder le ciel et tout ça, qu'est-ce que c'est magnifique et qu'est-ce que c'est grand. Et ce psaume dit, c'est la terre qui chante la gloire de Dieu. Donc c'est l'être humain, c'est ici, c'est là que quelque chose de la gloire de Dieu se dit. Deuxième renversement, c'est par la bouche des nourrissons et des bébés, tu as dressé une forteresse contre des adversaires. C'est pas tellement un langage militaire. Pour réduire au silence ce qui fait mal, c'est la bouche des tout-petits. C'est la voix des plus petits parmi nous qui dira la gloire de Dieu. C'est donc dans la fragilité et pas dans la force que Dieu fonde une forteresse. C'est quand même intéressant. C'est un renversement de valeur. Ce qui est fort dans ce psaume, aux yeux de Dieu, c'est dans la fragilité, la petitesse et la faiblesse qu'on peut le trouver. Puis le troisième renversement, c'est que ce psaume ne réfléchit pas à qui est Dieu, mais réfléchit à qui est l'humain. Qu'est-il ? Si vous vous mettez tout en haut d'une tour, puis vous regardez en bas, les gens sont tout petits. Si depuis un avion, quand il commence à atterrir, vous voyez les maisons, elles sont minuscules en bas. Alors, à plus forte raison, quand on va très haut, qu'est-ce que nous sommes ? Si minuscules, si petits, et pourtant si importants. Donc, pour moi, ce psaume dit quelque chose de très très intéressant, c'est la confiance que Dieu a en nous. Parce que même si petit, même si insignifiant, il a confiance en nous, puisque c'est à nous qu'il donne le pouvoir de gérer la terre, le pouvoir de la diriger, de l'organiser, de la faire belle. C'est à nous. C'est donc un psaume de confiance. On pourrait dire, bien sûr, Seigneur, que ton nom est magnifique, mais on pourrait aussi dire, Seigneur, que la confiance que tu nous fais est magnifique. Alors pendant tout l'été, dimanche après dimanche, nous avons choisi avec les collègues pasteurs de vous entraîner dans des hymnes, dans des louanges, dimanche après dimanche. Ce matin, c'est celle-ci. Seigneur, que ton nom est magnifique, que la confiance que tu nous fais est vraiment extraordinaire. Et nous pouvons en être reconnaissants. Amen.